Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
On va discuter maintenant avec un ancien ministre des Finances qui est passé par finalement la présentation de plusieurs budgets. Bonjour, Carlos Letao.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va bien. Vous étiez donc ministre de Philippe Couillard de 2014 à 2018, ministre des Finances. Vous avez déposé quoi? 5 budgets, hein?
C'est 5 budgets, oui. Ça a commencé avec 2014 et puis après ça, 4 à partir de là. Ouais.
Donc, je sais que vous suivez toujours l'actualité des finances publiques du Québec. Vous en êtes un passionné. Vous avez été dans l'opposition à commenter les budgets et les affaires financières de l'État. Et avez-vous été surpris par l'ampleur du déficit du sixième budget Girard, donc 11 milliards dans le trou?
Oui, j'étais surpris parce que si on se réfère à il y a à peine 4 mois, la mise à jour du mois de novembre, le gouvernement nous parlait d'un déficit pour l'année fiscale 24-25. Je pense aux alentours de 3 milliards, et puis là, tout d'un coup, c'est 11 milliards. C'est une grande, c'est un très grand écart, là. En seulement 4 mois, que s'est-il passé pour passer de 3 à 11? Et puis même pour l'année qui est derrière nous, l'année 23-24, là, le déficit aussi a été plus élevé que ce qui avait été rapporté en novembre.
Et ça, ah oui, c'est extrêmement... les chiffres consolidés, là, oui, nous indiquent ça, oui.
Et ça, c'est particulièrement préoccupant parce que rendu au mois de novembre, généralement, le ministère des Finances a une très bonne idée de qu'est-ce qu'on va présenter pour l'année en cours lors du budget qui est à peine 3-4 mois plus tard. Alors qu'on voit que même pour 23-24, il y avait quand même un écart important de 4, je pense que c'était de 4 à 8 milliards. C'est préoccupant, là. Que s'est-il passé, là, pour qu'on soit dans ces révisions-là en très peu de temps?
Il s'est passé les négociations dans le secteur public, probablement, pour ce qui est du budget du déficit de l'année qui s'en vient, le 11 milliards. Ouais. Mais c'est vrai que le déficit de l'année qui précède, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est le ralentissement, la stagnation de l'économie, probablement.
C'est ça, c'est les revenus. Donc, je vous avais dit tantôt 8 milliards, donc c'était 6,3 milliards qui a été rendu public pendant que le gouvernement attendait 4 milliards. Finalement, c'est 6,3. Et ça provient essentiellement des revenus, donc des revenus moins élevés pour l'année 23-24. Mais encore une fois, rendu au mois de novembre, on aurait dû savoir que les revenus allaient être considérablement plus bas que ce qui avait été anticipé avant.
Et les négociations dans le secteur public, trouvez-vous qu'on a été trop généreux à l'égard des employés de l'État? 7,4 d'augmentation. Oui.
Bon, ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir un jour, mais ce qui est étonnant, à mon avis, c'est que déjà au mois de novembre, il n'y avait pas vraiment de provision pour ça. Le gouvernement n'avait pas inclus, et il y a toutes sortes de façons dont un gouvernement, sans révéler de grandes choses, que le gouvernement aurait pu déjà inclure une certaine marge qui pourrait inclure des augmentations de la facture des salaires. Et non, il n'y avait rien, et donc tout d'un coup, pouf, c'est la surprise, la surprise. Surtout que quand on regarde pour l'année 24-25, vraiment c'est du côté des dépenses. Donc le changement du déficit provient surtout du côté des dépenses. Il y a un peu aussi, c'est vrai, des revenus des sociétés d'État, oui, mais la plupart d'ajustements va se faire du côté des dépenses.
Mm-hmm. Comment revenir à l'équilibre budgétaire? Vous l'avez fait, revenir à l'équilibre budgétaire. vous avez regretté certaines décisions. Vous l'avez dit,
une chose,
il y a un an, en éducation, on est allé trop vite, ça a créé des problèmes. Donc, vous avez exprimé un mea culpa.
En éducation, oui.
Oui, même en santé.
Non, en santé, je pense que je crois toujours qu'on avait fait la bonne chose. Okay. Mais en éducation, oui, en effet. On aurait dû faire ça différemment. Principalement parce que, et ça, je pense que le gouvernement actuel est aussi en train de le constater, le ministère lui-même a de la difficulté, le ministère d'éducation et enseignement supérieur, a de la difficulté à bien exécuter ses budgets. Mm-hmm. C'est peut-être une question institutionnelle, ministère, commission scolaire, bon maintenant centre de services scolaires, il y a toujours un décalage entre l'année fiscale et l'année civile. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau au ministère de l'éducation à Québec, mais moi je m'attendais pas à ça et oui, ça a beaucoup de difficultés notre tâche. Et donc, si c'était à refaire, je pense qu'en éducation, on aurait dû y aller de façon plus systématique, plus lente peut-être, pour donner au ministère la chance d'attraper les commandes qui lui étaient envoyées. Mais le reste, je m'en tiens. Mais pour revenir à votre question, je pense que oui, c'est nécessaire de revenir à l'équilibre budgétaire. Et oui, c'est plus facile de le faire plus tôt que tard. Ce qui me surprend, c'est que le gouvernement réalise qu'il y a un grand déficit, mais dit qu'il y a tellement d'incertitudes qu'il sera seulement l'année prochaine, en mars 2025, qu'il y aura plan de retour. Ça me surprend énormément, parce que je pense que les grandes lignes de ce plan de retour auraient déjà dû être mises en œuvre maintenant. Pas qu'ils commencent tout de suite à faire des changements, mais les grandes lignes auraient dû être annoncées maintenant. Je pense que ça, c'est une occasion ratée.
Vous dites qu'en éducation, vous auriez fait les choses autrement.
Probablement oui.
Parce que, oui, plus lentement. Tu sais, vous avez parlé des gens qui n'ont pas été remplacés parce qu'il y a des gens qui partaient à la retraite. Donc, ça a créé le problème de pénurie de main-d'œuvre ou ça a accentué le problème de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation, là, qu'on tente de corriger avec des meilleurs salaires et tout ça.
Ça certainement que ça a contribué parce que la pénurie était déjà là, je pense. Mm-hmm. Mais le très grand nombre de départs à la retraite en 2015-2016, ça nous a surpris et oui, ça a rendu les choses plus difficiles et c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû aller un peu plus lentement parce que le ministère n'avait pas, et je pense qu'il n'a pas encore aujourd'hui, n'avait pas une idée claire du portrait
des ressources humaines. Vous dites qu'il n'y a pas de données, hein? Il manque des données, il n'y a pas de tableau de bord, comme le dirait Christian Dubé en éducation. Oui. Hein? Ça, c'est un problème.
Pour savoir exactement combien de personnes on va avoir besoin. Okay. Alors, puisqu'on n'avait pas ce portrait-là, et on avait quand même des commandes, disons rigoureuse à envoyer au ministère, ça a été très difficile pour eux de suivre.
Ouais. Dans l'entrevue,
le problème est toujours là. Je pense,
Monsieur
Drainville se bat toujours avec cette question d'avoir une véritable portrait de quelle est la situation au jour, au début de l'année scolaire, combien de personnes nous manquent exactement. Je pense qu'encore au début de cette année scolaire, c'était encore un problème.
Donc, en 2015-2016, vous êtes revenu rapidement à l'équilibre budgétaire et c'était par crainte du courroux des agences de notation. Vous l'avez dit, là, il y a Moody's là, qui voulait vraiment décoter le Québec, avez-vous dit il y a un an dans l'entrevue que vous avez accordée à Gérald Filion de Radio-Canada. Donc, et là, on voyait ce matin que les mêmes agences de notation regarde le Québec et sourcille, ils ont vraiment pas aimé. Donc, d'abord, est-ce qu'il faut craindre plutôt une décote du Québec? Et deuxièmement, Pour les satisfaire, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse de la rigueur budgétaire extrême, voire de l'austérité? J'ai employé le mot en A, Carlos Rétard.
Mais ça va, ça ne me dérange plus. regardez, deux choses. La première, c'est que dans le discours de récent, de budget après budget, on a vu le ministre des Finances, essayer de minimiser un peu les choses. Je crois que ce qu'on doit tenir en considération, c'est qu'au Québec, nous avons un niveau d'endettement public qui est encore très élevé. Mmh. Oui, il y a eu du progrès. Oui, les ratios de dette ont diminué. Je pense qu'on a bien fait les choses à cet égard-là. Mais on est encore, en termes de dette publique, au Québec, on est la deuxième province.
Ah oui.
C'est seulement Terre-Neuve qui a une dette plus élevée que la nôtre. Et par la suite, c'est le Québec. Maintenant, même l'Ontario a une dette qui est un peu moins élevée que la nôtre en termes de proportion du PIB. Donc, on a une dette qui est le fruit des décisions passées, de tous les gouvernements passés. Donc, la dette, elle est très élevée. Donc, il faut toujours faire attention. Mm-hmm. Maintenant, pour ce qui est d'une décote. En 2014, on était vraiment à la limite de ce qui était la qualité de crédit qualité investment grade. Mm-hmm. Et donc, ça aurait été extrêmement complexe si à ce moment-là, on avait été décoté. C'est pour ça qu'on s'est battu, on a discuté, on a eu de longues réunions avec ces personnes-là pour essayer de que la cote soit maintenue. Parce que si on avait été décoté à ce moment-là, ça nous aurait mis dans une situation extrêmement délicate. Maintenant, on n'est plus là. Le Québec a été, la cote a été améliorée. Donc, si jamais il y avait une décote aujourd'hui, regardez, l'Ontario a été décoté, le ciel ne leur a pas tombé sur la tête. Parce qu'ils sont toujours à l'intérieur d'une cote de qualité investissement. Donc, de ce côté-là, ça va. Le problème.
La cote du Québec est meilleure que celle de l'Ontario encore. Hein? Oui.
Oui, oui. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, mais oui. Donc, on a vraiment une bonne marge de manœuvre. Mmh. Je ne pense pas vraiment que les agences de notation vont. Je ne pense pas qu'une décote soit imminente. Je ne pense pas ça du tout. Ce qui dérange les agences de notation, et ce qui me dérange aussi à moi un peu, et à beaucoup d'autres observateurs, c'est que le gouvernement n'a pas jugé utile de publier en même temps dans son budget un plan de retour à l'équilibre budgétaire.
Ouais,
c'est clair
ouais.
qu'on va pas éliminer le déficit demain matin, ça n'arrivera pas et c'est pas nécessaire de faire ça non plus. Mais il faut avoir sur un horizon de 5 ans, il faut avoir un plan de retour à l'équilibre. Là, ouais. on n'est pas dans un horizon de 5 ans et on n'a pas de plan de retour à l'équilibre. Mm-hmm. Je pense que c'est surtout ça qui rend les agences de notation un peu plus nerveuses. Ils vont aller, comme c'est le cas chaque année, ils vont aller au ministère des Finances, il y aura des conversations beaucoup plus détaillées entre le ministre et les fonctionnaires de l'agence de notation. Par la suite, ils vont produire leur rapport, les agences. Donc on verra là, on n'est pas à la veille d'une décote, mais la question ici c'est que dans les marchés financiers, juste le fait que les agences ont indiqué un certain inconfort avec le portrait financier du Québec, juste ça, c'est suffisant pour faire, comme on dit dans le jargon, élargir les spreads de crédit. Donc c'est-à-dire, ça nous coûte maintenant un peu plus cher.
Ça nous coûte plus cher.
Que la ouais. semaine dernière. Un peu, ouais. là, il faut pas exagérer, mais ça nous coûte un peu plus cher que la semaine dernière. Mmh. Et c'est ça le risque. Même sans avoir une décote, le service à l'aide peut augmenter un peu. Donc c'est pour ça que c'est très important et très nécessaire d'avoir ce plan. Mmh. Ce plan et qu'il soit crédible. Hein, une trajectoire de retour à l'équilibre, c'est important.
En terminant, je voudrais aborder le thème de l'immigration.
Oui.
Vous avez dans le passé critiquer assez durement la coalition Avenir Québec. Vous avez
oui.
dit qu'ils étaient animés d'un nationalisme basé sur l'ethnicité. Et en même temps, vous avez été dans les grandes banques mm-hmm. ici au Canada, notamment la Banque Laurentienne. Et là, je vois toutes les grandes banques changer de discours complètement sur mm-hmm. l'immigration. La dernière en date, c'est la Banque Royale qui a publié une étude cette semaine où elle dit c'est catastrophique, l'immigration massive pour le logement, ça aide pas la démographie, tout ça. Je me demandais comment vous, face à ce changement de discours des grandes banques, on pense aussi au piège démographique qui a été dénoncé par la Banque nationale. Donc, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez ça? Est-ce que vous considérez que les banques sont en train d'adopter une sorte de nationalisme ethnique ou est-ce que vous croyez que c'est nécessaire?
Non, non, pas du tout. Et une chose, je regrette le terme que j'ai utilisé
en
2017-2018.
Ouais,
quand j'ai parlé de ça, c'est pas le terme que j'aurais voulu utiliser. C'est plutôt le nationalisme identitaire. C'est ça ce que je voulais dire. Et en effet, ce terme-là que j'ai utilisé n'était pas approprié.
Je comprends.
Je me suis excusé. Et maintenant, si on revient à la question, et c'est très intéressant que vous la posiez dans ces termes-là, parce qu'en effet, il y a eu un énorme changement de 2018, quand on parlait de ces choses-là, chemin Roxham, etc. Et puis 2024, il y a un changement majeur qui s'est opéré au Canada. Et là, je trouve qu'on doit faire très attention parce que regardez, quand on regarde les chiffres objectivement, en 2022, c'est 1 million de personnes qui sont arrivées au Canada.
Ouais.
1 million de personnes.
Ouais.
Et en 2023, quand on aura les chiffres aussi, les chiffres finaux, ça va être aussi 1 million, peut-être même un peu plus. Donc, en 2 ans, là, on a 2 millions de personnes qui sont arrivées au Canada.
Mm-hmm.
On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur qu'on était en 2016, 17, 18. Là. C'est ça. Le portrait a complètement changé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on regarde la composition de ces 2 millions de personnes qui sont arrivées au Canada en seulement 2 ans, on voit qu'un très grand nombre de ces personnes-là ont un statut temporaire.
Mmh.
Et ça, je trouve extrêmement malheureux. Et j'avais déjà mentionné ça quand j'étais encore à l'Assemblée nationale.
Ouais.
J'avais mentionné au Premier ministre et au gouvernement que comment voulez-vous qu'une personne s'intègre à la société québécoise si vous lui donnez un permis de 3 ans? Donc après 3 ans, il doit rentrer chez lui. Donc comment vous voulez qu'il fasse un effort pour s'intégrer? Donc je pense que de miser sur l'immigration temporaire, c'est une erreur.
Mm-hmm.
Au Canada, c'était pas ça l'immigration. C'est l'immigration permanente avec un système quand même relativement efficace à mon avis dans le temps, où on choisissait les personnes. Il y avait une grille de sélection. Il y avait des points qui ont été attribués. On pourrait augmenter les seuils, on pourrait avoir de longues discussions là-dessus, mais le processus était un processus robuste. Là, il me semble qu'on est ailleurs, là, avec une immigration temporaire, avec très peu de critères et vraiment des données, des nombres qui sont hors proportion. Une population de 40 millions, vous avez 2 millions.
Mais une immigration qui permet d'éviter des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Donc
peut-être, mais
tout un dilemme là pour surtout une partie de pays comme le Québec, une nation qui a une démographie très vieillissante.
Oui, c'est vrai, nous avons un problème démographique majeur. Et qui dans les années à venir ne va pas s'améliorer. Ça c'est la projection la plus facile à faire, c'est une projection démographique. Mais encore une fois, la façon de répondre à ces enjeux-là, à mon avis, ce n'est pas par l'immigration temporaire, mais par une immigration structurée permanente.
Mm-hmm.
Et si on met trop d'emphase sur une immigration temporaire, on va aller chercher beaucoup de travailleurs non qualifiés. Et donc, d'une certaine façon, on va mettre un peu de pression à la baisse sur les salaires et les entreprises vont avoir moins d'incitatifs à investir dans la modernisation, donc à améliorer la productivité.
Ouais,
parce que c'est une chose qui se passe aujourd'hui.
C'est un problème du Canada. Malheureusement, il faut qu'on se laisse là-dessus, Carlos Letang. C'était vraiment un plaisir de vous parler comme d'habitude. Puis je rappelle que vous avez été entre autres banquier et ministre évidemment des Finances de Philippe Couillard. Alors merci encore puis au plaisir.
Merci à vous. À bientôt.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure d'aller rejoindre mes amis du bureau parlementaire, Geneviève Lajoie, Rémi Nadeau et Nicolas Lachance. Rémi, c'est leur patron. Bonjour Rémi, c'est la première fois là-haut sur la colline, mais nouvelle vague, nouvelle mouture. Alors, bienvenue. On commence par toi. Grosse semaine budgétaire. Je sais qu'aujourd'hui, au moment où on est diffusé, samedi, tu publies ton papier de la semaine, tes pouces en haut, tes pouces en bas. Je me demandais quels sont tes angles, quels sont tes joueurs vedettes puis tes joueurs qui méritent des pouces en bas.
Bien, assurément, parce que l'exercice des pouces, c'est vraiment de dire qui a eu une mauvaise semaine, qui a eu une bonne semaine. Alors, je te dirais, cette semaine, il n'y a pas grand monde qui a marqué des points. C'est vraiment une semaine sous le signe...
C'est le festival des pouces en bas?
Oui, exactement. Bon, évidemment, on commence par Éric Girard. C'est sûr que le grand argentier du Québec, sûrement, n'est pas entré en politique pour présenter un budget avec le plus grand déficit en dollars absolus de l'histoire du Québec. Et le pire pour M. Girard, c'est vraiment le fait d'avoir estimé là, qu'il y aurait un déficit de 3 milliards de dollars. À la mise à jour, il avait dit, bon, ce sera 1 milliard de plus, 4 milliards, mais là, finalement, on arrive à 11 milliards. Donc, l'écart entre ce qu'il avait prévu et le résultat des courses là, est vraiment... c'est décourageant. Là,
c'est ahurissant.
Oui, exactement. Donc, alors, c'est sûr que c'est une mauvaise semaine pour lui et ça a apparu là, tout au cours de la semaine. D'autres ministres du gouvernement de la CAQ, Jonathan Julien, même chose, mauvaise semaine. Monsieur Julien qui a l'intention de faire en sorte qu'au Québec, on puisse construire plus vite et à plus faible coût, a prononcé un discours devant l'Association des représentants de grands constructeurs de travaux. Et... Ça m'a fait penser à Mathieu Lacombe qui avait dit après une couple d'années au gouvernement, on se rend compte que ça va pas assez vite les projets de CPE. Mais là, c'est un peu la même chose. Monsieur Julien qui admet que les projets étaient lancés mal ficelés, qu'on précisait les besoins au fur et à mesure et que ça coûtait trop cher. Donc là, c'est comme un aveu. Tu sais, la CAQ est là au gouvernement depuis 6 ans pratiquement. Donc, d'arriver avec ce message-là aujourd'hui...
C'est l'expérience qui rentre, on dit, on dirait.
Alors, même chose, donc pas de bonne semaine pour M. Julien. Marois Risky s'est payé la traite là, en mettant sur les réseaux sociaux extrait de ce discours-là. Et du côté des partis d'opposition, quand même, moi, je mets une mauvaise note cette semaine pour Marc Tanguay, pour la réaction au budget. Contrairement, il y avait vraiment un grand écart entre la réaction de Marc Tanguay et de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était tout en nuance. Marc Tanguay qui est allé de termes comme la soue à cochon. On a vu la soue à cochon de François Legault, qui a dit aussi les services, la qualité des services était bien meilleure dans le temps des libéraux. Pas vraiment. Là, t'sais, on se rappelle qu'il y avait eu des rapports qui avaient présenté l'impact de l'austérité sur les services publics, sur les services directs rendus à la population.
Oui, puis je dois te dire que j'ai Carlos Letao à l'émission qui réitère son mea culpa sur l'éducation. Là. Il trouve qu'il est allé trop vite en matière de réduction des budgets en éducation.
Alors, Marc Tanguay, tu vois, moi, je trouvais qu'à vers la fin de la précédente année, M. Tanguay s'était un petit peu raffiné, avait je trouvais qu'il avait commencé à mesurer un peu plus là, ses interventions. Puis là, cette semaine, on a vu là, le Marc Tanguay un peu là, comme un personnage de BD avec un visage en caoutchouc là, ou un Jim Carrey là, des années 90 là, qui veut faire des grimaces pour faire rire le monde. Là. En tout cas, ça me convient pas. Et puis, un dernier point aussi dans les ministres du gouvernement, j'oubliais Antoine, France-Hélène Duranceau qui a eu une très mauvaise journée hier.
Oui.
On voit donc les textes qui ont été faits là, à la suite de sorties publiques.
Et
là,
oui, on est vendredi matin au moment où on enregistre, là, puis c'est le coup par porte de maison pour femmes violentées, pour violence, les victimes de violences conjugales. Elle a dit 900 000, c'est beaucoup trop cher.
Ben, c'est ça. Alors donc, on bloque des chantiers de construction de maisons d'hébergement pour des femmes victimes de violences. Je comprends là, sur le plan là, strictement, effectivement, de la rigueur budgétaire, la rigueur gouvernementale, de dire, ben là, dans les projets pour les projets sociaux, on est davantage dans 450 000 par porte, 500 000 par porte. Mm-hmm. Puis là, on a lancé un projet de maison pour les femmes victimes, puis c'est 900 000 par porte, c'est trop cher. Mais comme il y a eu une sortie avec des représentantes de ces maisons-là, avec mm-hmm. les trois partis d'opposition, c'est un sujet extrêmement sensible. La façon avec laquelle Mme Duranceau a répondu, un peu comme sèchement, disant juste « c'est trop cher », ça manquait trop d'empathie, ça n'a pas de bon sens. Je dis, tu peux pas, tu sais, et on peut pas comparer non plus avec n'importe quel projet social parce que si une femme qui est menacée a pas de place dans une maison d'hébergement, risque d'être victime de violences encore plus graves, ben là, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Puis rappelons-nous aussi, je le dis rapidement, mais Marguerite Blais qui se faisait poser des questions sur les coûts astronomiques des maisons des aînés au Salon Bleu. Et elle avait dit, là, ben là, est-ce que c'est quoi ça? C'est, il faudrait qu'on mette moins d'argent, c'est trop cher pour nos aînés. Nos aînés ont le droit d'avoir des bons services. Alors, c'est un peu la même chose là, dans ce cas-ci. Mme Duranceau a assurément manqué de sensibilité là, dans ses réactions hier.
On retourne au budget, puis on va parler avec Nicolas et Geneviève maintenant. Geneviève, t'as senti une mauvaise humeur d'Éric Girard mardi. Raconte-nous cette anecdote.
Oui, bien, on va se remettre dans le contexte. Hein. Éric ouais. Girard, on se rappelle qu'il a été passablement échaudé par l'histoire des Kings de Los Angeles, la subvention ouais. pour un match qui va se dérouler l'année prochaine. Depuis, là, on le sent très échaudé, très prudent, il fait attention. Et là, lundi, une autre erreur de sa part, de son équipe, il s'en va à Longueuil pour annoncer, pour faire sa sortie coutumière. À chaque fois là, qu'il y a un budget, la veille, il y a une sortie du ministre...
Séance de photos, souliers habituellement.
Oui,
là, il n'y a plus de souliers.
Et brève allocution aux journalistes, quelques questions, tout ça. Mais ça se fait toujours... C'est de la tradition, là. D'habitude, mm-hmm. ça se fait à Québec. Et là, il a choisi Longueuil pour aller faire ça. Évidemment, bon, les partis d'opposition l'ont beaucoup critiqué pour ça. Lorsqu'il est arrivé au huis clos du budget, on se rappelle que le huis clos du budget, on est tout plein de journalistes qui sont coincés dans une salle en face du Parlement pour aller voir ce qu'il y a dans le budget, là, les gros documents. Mm-hmm. Le ministre vient toujours faire un petit tour avant sa conférence de presse dans le huis clos. Il fait un petit tour de tout le monde. Il vient nous voir, chacun des médias. Et quand il arrive proche donc des gens du Journal de Québec, du Journal de Montréal, il s'approche et puis bon, je lui lance à la blague que vous êtes revenu à Québec, mais ça n'a pas passé du tout.
Ah non.
Il était vraiment vraiment pas content de mon commentaire et ça lui a pris un moment avant de réagir en me disant ben écoutez là, la nuit dernière là. Il y a le président haïtien qui a démissionné. Puis nous, ici, on parle du fait que j'étais allée à Longueuil au lieu de Québec. Alors, il voyait, lui, une tempête dans un verre d'eau. Et visiblement, il était très, très affecté par ça. Et là, comme vous le disiez au début, là, c'est certain qu'il présente en plus un budget qui ne lui plaît assurément pas.
Lui, le conservateur fiscal, obligé
Exactement.
De déposer un budget si déficitaire.
Le budget qui aura un déficit en nombre absolu de 11 milliards, c'est un record.
Ouais.
Imaginez, lui, il va porter toujours le poids de ça.
Selon le PIB ou...
Nico, c'est vrai ça. Monsieur Legault a essayé de relativiser.
Et Monsieur Girard, hier, a été confronté aussi sur la question de la cote de crédit, puis encore une fois, en fait, hier jeudi, et encore une fois, il était vraiment de mauvais poil, soutenant que les oppositions et que les journalistes, on comprenait rien à ce que les agences avaient écrit dans un communiqué, qu'on était complètement dans le champ, que c'est lui qui comprenait ce qui était écrit, puis qui allait les convaincre de toute façon là, de la bonne tenue des finances publiques du Québec.
On en a parlé un peu, vu que t'as la parole, Nicolas. Beaucoup de nouvelles sur les voitures dans le budget. Et toi, tu t'es un peu concentré là-dessus dans ta couverture. Parle-nous un peu des chars.
Déjà en 2000, au Québec, on a une subvention qui s'appelle Rouler Vert, donc à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride branchable. On a de l'argent, 7 000 $ présentement pour un véhicule 100% électrique de subvention du gouvernement du Québec. Donc, c'était pour stimuler l'achat de véhicules électriques parce qu'on a des objectifs quand même ambitieux au Québec. On vise 2 millions de véhicules électriques sur nos routes pour 2030. Déjà au budget 2023, Monsieur Girard et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, avaient dit « Cette subvention-là, elle ne sera pas éternelle. » Eh bien là, c'était écrit noir sur blanc dans le budget cette année. La fin, 1er janvier 2027, plus aucune somme seront accordées pour cette subvention. Et ça sera graduel. Donc, dès le premier de l'an, cette année, elle sera réduite à 4 000 avant de tomber à 2 000 pour disparaître.
Ça a suscité des critiques, hein, notamment du Parti québécois, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, est propriétaire d'une auto électrique, d'après ce qu'il nous a dit.
C'était quand même nuancé. Donc, on sent pas que les partis d'opposition sont contre la fin de la subvention. Certains trouvent que c'est trop rapide. Le gouvernement soutient qu'on arrive à maturité, que le prix des véhicules électriques et celle à essence seront bientôt à égalité, mm-hmm. Donc sommes toutes au même prix. Et le gouvernement soutient également, au Québec, on a une norme qui s'appelle la norme VZE, donc véhicule zéro émission. Par règlement, on est en train de forcer les concessionnaires et les constructeurs à vendre un nombre précis de véhicules. Ça va aller très vite, là. Bientôt, ça va toucher, avant la fin de la décennie, ça va toucher 90% des véhicules qui devront être vendus, devront être électriques. S'ils n'atteignent pas leur cible, ils doivent compenser par des crédits carbone et souvent, ils sont obligés de les acheter, par exemple, à Tesla, aux compétiteurs. Donc, ça commence à frustrer pas mal ces constructeurs-là.
Ouais,
donc,
OK.
Il y a quand même des lois au Québec, des normes qui obligent les concessionnaires à les vendre. Donc, ça risque de faire baisser également le prix des véhicules. C'est ce que soutient le ministère de l'Environnement. Et on a une loi pour 2035. Plus de véhicules à essence qui vont être vendus. Donc, de toute façon, le marché va se stabiliser au Québec. C'est ce qu'on dit. Et, bon, le gouvernement aurait pu faire comme en Allemagne puis tirer le jachelon d'un coup. Par exemple, en Allemagne, l'an passé, c'était terminé. Fini d'un coup. Là, on y va plus graduellement pour essayer justement de pas trop déstabiliser le marché. Il y a d'autres... c'est certain que, par exemple, Québec solidaire n'est pas contre cette mesure-là, mais eux... En dernières élections, en tout cas, soutenait qu'il fallait aller dans d'autres directions comme ailleurs dans le monde, comme en France, par exemple, où il y a des bonus-malus. Dans le fond, c'est qu'au lieu d'être récompensé à l'achat, on est puni si on continue à acheter des véhicules polluants. C'est une façon de compenser et de mettre de l'argent dans les coffres de l'État.
Mm-hmm. Parlant des coffres de l'État, et bon, on sait, ils sont vides. Comment les remplir maintenant? Il paraît que ça va dépendre en partie de nos bassins hydrauliques, Geneviève. Il y a un nouveau mot, c'est un mot qui était connu, mais sur lequel on n'avait jamais insisté comme ça dans le budget, hydraulicité.
Oui.
Et ça t'a beaucoup intrigué cette semaine.
Ça m'a frappé déjà quand j'ai lu le budget, première lecture, hydraulicité des bassins d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau mot à la mode. Hein? Puis vous allez l'entendre de plus en plus, mais c'est pas rien ce mot-là, ça signifie 1,5 milliard de moins dans le budget. Là. Donc, ça fait, c'est en partie... à cause de ça qu'il y a un déficit aussi élevé au Québec. Mm-hmm. Et c'est quoi l'hydraulicité, en fait? C'est le niveau d'eau qui est trop bas, en tout cas, depuis l'année dernière, dans les bassins d'Hydro-Québec, et qui fait en sorte que Hydro-Québec, donc, produit l'électricité majoritairement pour le Québec et exporte moins. Et donc, à cause de ça, on a moins de rentrées d'argent, et Hydro-Québec, donc, fournit moins d'argent au gouvernement. Et ça fait un trou énorme dans les coffres de l'État. On s'attend évidemment à ce que... En tout cas, on a posé la question à M. Legault, t'étais là, on a posé la question à M. Girard à ce sujet-là, parce que c'est pas rien, là, c'est Dame Nature qui a énormément d'influence sur notre budget, et eux autres sont convaincus que c'est des cycles, et puis, ça va revenir. Mais tu sais, en tout cas... reste que la météo, donc, a énormément d'influence sur nos budgets.
Oui.
Si on se fie à ce qui se passe en Europe, où les étés sont de plus en plus chauds, aucune pluie, on le voit, nous, cette année, notre hiver est passablement sec, là. On n'a pas de neige. Et donc, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Mais bon, M. Legault et M. Girard semblaient convaincus que c'était vraiment exceptionnel puis que ça allait pas revenir, là.
Donc, il va falloir qu'il pleuve. Mais tu sais qu'en faisant une revue de presse, là, je suis tombé sur un article de 2004. C'était Pierre Fortin, l'économiste, qui parlait de ça et qui disait qu'on sortait de 16 années de vaches maigres de pluie dans les années 90. Là, en 2004, c'était formidable, les bassins étaient pleins, même débordaient. On sait qu'en 2020 aussi, on a jeté de l'eau par-dessus les barrages, mais il y a eu d'autres époques dans le passé. Donc là, je trouve ça très intriguant, cette histoire de l'hydraulicité, puis je me demande s'il va falloir ensemencer les nuages. Tu te souviens des années... souvenez, dans les années 80, on parlait de ça, ensemencer les nuages. Nicolas, on revient à toi. T'es notre gars de char aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autos qui se vendaient à une pièce. Et c'est quoi cette histoire-là? On en a moins parlé après le budget, mais c'est une des mesures que le gouvernement a mis en place.
Ben, pour aller chercher de l'argent, on cherche comment aller chercher de l'argent. Donc, on va s'attaquer au marché du char usagé, donc la bonne vieille minoune. En fait, quand on va vendre une voiture usagée entre citoyens, il y a un guide d'évaluation qui est sur 10 ans. Donc, oui. Selon le prix le plus élevé, disons, si moi je décide de vendre ma voiture 2 000 $, mais qu'au guide est affiché 4 000 $ la valeur, on paiera la taxe de vente sur le 4 000 $. On vend notre voiture 2 000, mais on paye la taxe de vente selon le chiffre le plus élevé entre l'évaluation et le prix de vente. Après 10 ans, il y en avait plus de guide d'évaluation.
Okay.
Donc, les gens qui arrivaient avec une voiture qui datait de 11 ans, 12 ans, 13 ans, souvent déclaraient à la SAQ au moment de l'immatriculation qu'ils l'avaient vendu juste 1 $. Donc, ils payaient pas de taxes de vente, même s'ils avaient payé la voiture, par exemple, 4 000 $ ou 5 000 $. C'est une façon de contourner un peu les lois. Mais bref, le gouvernement a décidé de s'attaquer à ça et de bonifier le guide de 5 années supplémentaires. Donc, on pourra plus mentir pour une voiture âgée de 14 ans, par exemple. Et là, ben, c'est sûr que sur Internet, il y a eu des critiques, par contre, parce que les gens considèrent qu'on s'attaque aux gens qui ont moins de moyens, quand qui ont juste l'argent pour s'acheter un vieux bazou, une vieille minoune, pas une voiture neuve. Donc, c'est un peu les critiques qui sont ressorties. En même temps, la taxe de vente doit s'appliquer sur ce type de d'achat et de vente.
Bon, donc c'est les règles. Mais si je peux me permettre...
Rémi, vas-y.
Ce que je déteste dans ce système-là, c'est le fait que un véhicule, la taxe de vente a été payée à l'achat du véhicule neuf.
Et
quand quelqu'un conserve son véhicule longtemps et le vend pas cher à un membre de la famille, par exemple un neveu ou un, tu sais, des fois, parce que ça reste dans la famille et qu'on veut donner une chance à cette personne-là qui commence dans la vie, et là d'arriver à la SAAC puis d'être obligé de payer un gros montant de taxes là-dessus, moi je veux dire, ça me lève le cœur. Fait que c'est, je comprends la réaction.
Surtout qu'il y a souvent des réparations à faire sur ces véhicules-là, changer des choses. Donc on va souvent injecter de l'argent supplémentaire pour la faire fonctionner un peu plus longtemps. Donc ça peut frustrer.
Vous avez tous des articles aujourd'hui, samedi, dans le journal. Nicolas, tu as un dossier sur l'efficacité énergétique. Rémi, une chronique qui s'intitule, dis-moi, est-ce que tu le sais déjà?
C'est sur les dépenses, en fait. C'est sur le fait que bonne chance pour réduire les dépenses de l'État parce que M. Legault continue de gonfler la taille de l'État pendant ce temps-là.
Je reviens à Nicolas. Nicolas, donc, dossier efficacité énergétique... est-ce qu'on peut faire comme la France, hein? C'est ça? T'es allé en France faire un reportage?
Exactement. Ça vient un peu en lien avec ce que Geneviève parlait d'hydraulicité, du manque d'eau. Donc, l'ère des surplus électriques sont terminés. Ça fait 15 ans qu'on nous lance qu'on est en surplus, on vend notre hydroélectricité, que ça remplit les coffres de l'État. Bref, c'est terminé. Monsieur Fitzgibbon, le ministre de l'Énergie, le répète constamment. Et il va falloir se serrer la ceinture, peut-être pas dans notre portefeuille, mais de la façon où on va gérer notre lumière, notre chauffage, notre façon de consommer à la maison, quand faut partir nos électroménagers. En France, ils l'ont fait. Ils ont eu une crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi ils ont eu des problèmes avec leur centrale nucléaire.
Okay.
Ils ont réussi à baisser de 12% en un an leur consommation d'énergie. Bon, on nous forcera pas à faire ça, mais clairement, le gouvernement veut lancer le débat.
Ouais.
On consomme mal, c'est M. Fitzgibbon qui le dit. on est les derniers de classe. C'est encore lui qui le dit. Hydro-Québec va nous demander de consommer à des moments différents et de mieux consommer cette énergie-là. On va aller chercher 21 TWh. Ça représente 1,2 ménages, 1,2 million de ménages au Québec. Donc, il faudrait enlever la consommation au Québec de 1,2 million de personnes. Est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est ce que je vous présente en fin de semaine.
On va te lire avec intérêt. Geneviève, en terminant, toi, on te lit sur quoi aujourd'hui, samedi, ou demain, si on prend aujourd'hui où on enregistre?
Écoute, on verra. Ça va dépendre de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale entre le ministre Julien puis la députée libérale Marois Risky.
Super. Merci beaucoup à vous trois, Nicolas Lachance, Geneviève Lajoie, Rémi Nadeau. Puis on se reparle bientôt, mes amis du Bureau parlementaire.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et c'est l'heure de la chronique Consti avec notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
Un petit mot sur le budget peut-être en commençant parce que c'est la semaine budgétaire. Le dépôt a été fait mardi par Éric Girard et c'est son sixième budget et ça fait beaucoup jaser parce que le retour à l'équilibre budgétaire, ben ça va nécessiter peut-être un effort d'Ottawa.
Oui, et le fédéralisme fiscal, là, c'est toujours un problème au Canada, parce que justement, sous l'angle des impôts, sous l'angle des dépenses publiques, mais en vérité, il n'y en a pas de règles. Chacun fait ce qu'il veut, il perçoit autant d'impôts qu'il le souhaite. Le fédéral perçoit autant d'impôts, c'est premier arrivé, premier servi. Le Québec pourrait monter ses impôts si politiquement il se croit capable de le faire. Donc on mange
on
la même tarte.
C'est ça que dit le ministre à la conférence de presse. On vient juste les baisser, ça c'est exclu.
Ouais, et on se nourrit à la même assiette fiscale c'est la loi un peu du plus fort, du premier arrivé, premier servi, parce que y a pas la cohérence. Logique qui voudrait que, un, chacun dépense juste dans ses champs de compétences. Déjà, ça ferait en sorte qu'Ottawa s'occuperait de ses affaires. Et deuxièmement, on prélève des impôts en fonction du niveau de responsabilité qu'on a. Donc, Ottawa a des responsabilités importantes. L'armée, ça coûte quelque chose. Mais Ottawa devrait pas percevoir des impôts pour financer les trucs d'un province puis qu'on fasse circuler l'argent. Or, là, on c'est pas nouveau ce problème-là, mais le contraste avec un Québec là, qui entre dans un déficit historique et un fédéral qui, lui, se permet de nouvelles dépenses, de saupoudrer, d'avoir des idées dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens, mais ça révèle cet immense contraste-là entre un fédéral qui emmène large, qui occupe une grande part de l'assiette fiscale et des provinces qui...
Peut-être un petit mot. Ben, tu as parlé de l'armée.
Oui.
Et s'il y a un poste budgétaire où le fédéral a sous-investi, on le voit, là, on est d'une certaine façon en guerre actuellement.
Sûr. On a des engagements envers le temps.
Puis le monde est de plus en plus inquiétant. Il a sous-investi dans l'armée.
Bien
là,
sûr.
Justin Trudeau a refusé un contrat pour renouveler nos chasseurs. Et finalement, il va falloir en acheter pareil. Alors, des fois, j'aurais envie que les provinces disent au fédéral, ben occupe-toi de ça, là.
Bien sûr.
Ça, c'est clair dans la Constitution.
Mais fond, c'est que notre Constitution, elle organise qui peut faire des lois, mais elle n'organise pas qui peut dépenser. Et là-dessus, on pense qu'on est organisé par du droit, mais non, c'est plutôt des simples rapports de force. Puis le Québec, dans tout ça, puis là, on se parle, là, mais aujourd'hui, le premier ministre du Québec et Justin Trudeau vont se rencontrer là au moment où nous, on enregistre.
Oui, nous, on enregistre jeudi après-midi.
Ouais, bon,
la rencontre
a lieu
vendredi. Oui, c'est ça.
Et c'est triste, là, mais notre premier ministre, puis bon, je personnalise pas à M. Legault, là, il y en a d'autres qui ont joué dans ce film-là, il va avoir l'air d'un quêteux. On a déjà eu un travail sérieux avec la commission Séguin pour penser comment on veut gérer ces questions de fédéralisme fiscal, mais en pratique, dans le suivi, là, tout ce qu'on fait, c'est demander plus d'argent puis de creuser davantage notre dépendance. C'est quoi notre véritable stratégie? Puis j'écoutais cette semaine à distance une conférence d'un collègue ami Guy Laforêt, mais qu'on peut pas soupçonner d'être hostile à la coalition Avenir Québec, il a été lui-même président de la DQ. Et il livrait un constat très, très, très sévère que ce gouvernement, peut-être encore plus que d'autres, n'a pas de stratégie dans ses relations avec Ottawa. C'est quoi sa stratégie pour réagir, par exemple, à l'Alberta qui revendique une réforme fiscale? Ben, c'est de rien faire, parce que peut-être que si on ouvre le débat, on va peut-être perdre un peu le chèque qu'on a déjà. Dans le dossier de l'immigration, on en parlait la semaine passée. On pourrait peut-être réouvrir l'entente Québec-Ottawa. Ouais, mais l'entente contient des transferts assez généreux. D'un coup, qu'on perdrait notre chèque. Et donc, cette dépendance financière, cette posture du premier ministre du Québec quêteux, ça nous empêche d'avoir une vision claire de c'est quoi notre intérêt. Et on parle souvent à ce micro de, oui, il y a un autonomisme dans le reste du Canada présentement, mais le problème, c'est qu'on veut pas être autonome ces mêmes affaires. Dans l'Ouest, c'est sur des propos, des sujets un peu infréquentables, le pétrole, les armes à feu, ils veulent être autonomes sur des affaires où on a de la difficulté à se mettre d'accord. Peut-être que sur l'argent, peut-être que sur l'impôt, peut-être que sur le fiscal, même s'il y a une tension entre le Québec qui reçoit beaucoup de péréquations, peut-être que c'en est un rare sujet où on aurait avantage à se parler. Imagine si à la veille de l'élection fédérale, là, on avait 7, 8, 9 provinces unies pour un nouveau pacte fiscal. Et là, on disait à Poilievre, à Justin Trudeau, embarquez-vous ou vous embarquez pas? Mais non, nous, tout ce qu'on fait, c'est on quête un chèque pour nos affaires à nous, avec aucun rapport de force, puis avec des demandes très imprécises.
C'est important ce que tu dis, d'autant plus que ce matin, à la période de questions, le premier ministre a dit « Je vais réclamer tous les pouvoirs ». C'est une question de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Paul Saint-Pierre Plamondon lui a dit en deuxième question « Et s'il refuse à la rencontre là, qui va avoir lieu vendredi ?» Et le premier ministre a dit « On va examiner nos options
».
Et la question s'est regardée sur la tribune de la presse, mais quelles vont être ces options? Moi, j'ai posé des questions. Puis, c'est quoi? C'est un référendum? Une grande commission, justement, sur l'immigration? Ou est-ce que c'est un recours judiciaire? Mais ça serait difficile, dans une compétence partagée comme celle-là, de plaider. Est-ce que le Québec a vraiment une cause? Donc, les options sont pas évidentes, Et comme tu dis, il y a que la posture du quémandeur qui
mais ce sont des options à envisager, mais surtout celles d'une grande commission. Parce que si au moins on avait les idées claires sur ce qu'on...
Ou d'un front uni avec, mettons, Daniel Smith.
Au moins, si on avait les idées claires sur ce qu'on revendique, ce serait déjà un début. Et regarde la réponse de ce matin. C'est on va exiger le rapatriement de tous les pouvoirs. Parfait. Mais il y a des sujets pour lesquels la solution, c'est pas le rapatriement des pouvoirs. Il y a des sujets pour lesquels la solution, c'est pas toujours d'avoir un plus gros chèque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces sujets où le fédéral a un rôle à jouer, puis il va continuer à jouer un rôle, mais il faut encadrer son rôle, il faut encadrer son action. Ça, là-dessus, là, c'est là où nos revendications sont les plus faibles, et c'est là qu'on nuit souvent à nos propres intérêts. Donc, moi, je suis pour ça, là, le rapatriement de pouvoir. J'ai rien contre ça. Mais des fois, ça devient comme une solution magique, et ça nous empêche de voir que certains de nos problèmes sont ailleurs. On peut bien rapatrier nos pouvoirs si le fédéral continue à dépenser dans les champs de compétences qui sont pas les siens. Il faut d'abord encadrer son action. Et donc, moi, je suis un peu inquiet, parce qu'on a bien beau exiger des transferts en santé qui sont en retard, on a bien beau exiger un milliard pour les demandeurs d'asile, 3 milliards pour le dentaire, pour l'assurance dentaire. À la fin, même si on a le chèque, c'est juste notre dépendance financière qui va s'accroître. Donc oui, j'aimerais ça soit fiscalement plus autonome, mais il faut trouver une solution plus à long terme. Et là, on regarde le dossier du dentaire, Antoine. L'assurance dentaire, c'est pas juste une intrusion, là, il faut le rappeler. C'est aussi une privatisation des soins de santé. Parce que pour ne pas coopérer avec les provinces, n'étant pas capable de gérer un système d'assurance dentaire, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement fédéral? Il a privatisé le service, il a confié un mandat à une entreprise d'assurance privée qui est la Sun Life Canada. Tout ça avec le cautionnement d'un gouvernement néo-démocrate progressiste qui préfère jouer dans le film de la privatisation du système partielle que de jouer dans le film de la coopération avec les provinces. C'est très symptomatique et très emblématique de cette espèce de crise du fédéralisme canadien. Puis l'avenir est pas prometteur, Antoine. Regarde les ambitions du fédéral en immigration. Regarde ce que ça a comme conséquence sur le plan démographique. On a beaucoup parlé de la baisse du poids politique du Québec que cela entraîne. Mais là, on le voit dans le budget. C'est pas juste la baisse du poids démographique, c'est aussi la baisse de la part du Québec dans les transferts fédéraux. Et là, je dis dans les transferts fédéraux au mm-hmm. sens large. Les transferts sans condition, les transferts avec condition, les transferts de péréquation. Là, on parle dans le présent budget d'une réduction de 6 %. C'est pas rien, là. C'est quelques milliards de plus dans notre déficit qui se creuse parce que, ben, c'est pas que le fédéral se désengage, mais c'est que la tarte que, là, qu'il distribue, si le Québec représente 25 % de la population, ben, il, dans certains cas, il y a 25 % de la tarte. Puis avec la péréquation, il y a un calcul axé sur les capacités fiscales de chaque province. Mais si on représente mm-hmm. une population moindre, si on a un déclin démographique, puis après ça, ça diminue notre part des transferts. Puis ensuite, suivant notre performance économique, ben c'est aussi notre part de la péréquation qui bouge. Donc moi, je vois difficilement comment on pourrait imaginer des lendemains radieux et verdoyants sur le plan du fédéralisme fiscal. C'est une dynamique que l'on connaît déjà, mais qui perdure et qui ne s'améliore pas du tout.
Tout autre sujet maintenant, on va parler de ce commentaire d'une juge, la juge Sheila Martin, une espèce d'obitaire dans un jugement où elle a parlé de personne avec un vagin. Est-ce qu'elle a exclu le mot « femme » Là, je te pose la question, je t'avais pas vraiment averti.
Bon.
Excuse-moi, mais oui, tu es un sage du comité des sages sur ces questions. Je demande pas des primeurs, Patrick, mais qu'est-ce que tu as pensé quand même, toi qui es un... qui critique assez les jugements assez souvent. Bon, donc,
je vais essayer de pas... Je vais répondre avec un certain devoir de réserve, puisqu'effectivement, mon travail sur le comité sur l'identité de genre...
Ce serait sage de ta part.
M'appelle à évidemment peut-être contourner le fond de l'affaire, mais je peux te confirmer, pour avoir jeté un coup d'œil sur la décision, qu'effectivement, la controverse, elle est au paragraphe 109 de l'affaire Crook. K-R-U-K, une affaire dramatique, une agression sexuelle. En première instance, la femme l'emporte, et en appel, elle perd. Et c'est beaucoup version contre version, donc la femme est intoxiquée, elle n'est pas tout à fait consciente, mais quand elle se réveille, elle est certaine d'avoir été agressée. Là, l'autre, il dit, ben non, elle l'a imaginé. C'est une affaire extrêmement malheureuse, extrêmement délicate. Et oui, le paragraphe 109 existe. La juge Sheila Martin, elle dit « Lorsqu'une personne ayant un vagin témoigne, blablabla. » Puis elle va un peu plus loin, même elle dit à un moment donné « Bien que le choix du juge de première instance d'utiliser les mots, entre guillemets, une femme, puisse avoir été regrettable et creuser la confusion. » Je sais pas pourquoi elle fait la morale au juge. Je pense que les juges peuvent bien utiliser les mots qu'ils veulent pour décrire la réalité, mais là... Non seulement elle veut marquer l'histoire, puis dire je suis la première à utiliser un langage non genré, mais en plus je vais le reprocher au juge de première instance. Donc, bref, c'est un paragraphe 109 qui est assez ambigu, qui va évidemment susciter la controverse dans le climat qu'il note là, de polarisation.
Ça a déjà commencé.
Toutes ces questions, c'est souvent une façon de faire de la politique sur le dos des personnes concernées directement par ces questions-là. Mais factuellement, le paragraphe existe. Par contre, quand on lit le reste de la décision, il est faux de dire que le mot « femme » est tabou dans l'affaire. Quand on lit la décision, on voit que le mot « femme » existe dans le reste de la décision. Il est souvent entre guillemets, mais il existe. Et il est souvent associé au passé, c'est-à-dire qu'on parle à un moment donné des femmes par rapport à la vieille agression de viol qui existait jadis dans le code criminel. Puis là, la juge dit cette conception du viol qui existait jadis était trop genrée, puis ça jouait contre les femmes. Fait que, bref, elle parle des femmes. Quand elle parle au présent, la juge utilise surtout des formules très épicènes comme la personne agressée sexuellement ou la personne plaignante. Mais il y a ce paragraphe 109 où on sent que la juge Martin veut marquer l'histoire puis dire voilà, je suis la première à dire les choses ainsi. À travers tout ça là, c'est pas anodin. Il y en a qui vont nous dire c'est juste un choix de mots. Évidemment que c'est juste un choix de mots. Puis on peut utiliser toutes sortes de mots pour décrire la réalité. Sauf qu'on est quand même dans un contexte de tension, de guerre culturelle, de polarisation. Et quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il nous a dit moi, le processus de sélection des juges, c'est pas idéologique, c'est pas politique. J'ai des comités, puis les comités, ils vont choisir à ma place. Puis ça va être juste la compétence qui compte.
Ouais.
Alors la juge Sheila Martin.
Ben, ah, tu ramènes cette question.
C'est parce que la juge Sheila Martin, on en a déjà parlé à ce micro, là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle se positionne avec un langage qui est, mettons, à l'avant-garde du néo-progressisme. C'est aussi parce que quand Judy Wilson-Raybould, la ministre fédérale de la justice de Justin Trudeau, elle a démissionné puis qu'elle a réglé ses comptes avec le premier ministre, ben une des choses qu'elle nous a dit, elle nous a parlé de la libéraliste, évidemment, mais une des choses qu'elle nous a dit, c'est que...
Oui, ça rappelle juste...
Ben, c'était que avant de nommer les juges, le gouvernement de Justin Trudeau prenait le temps de mettre les noms dans la base de données du parti, comme ça, ils pouvaient savoir qui a déjà participé à un cocktail ou déjà été membre du parti, etc., etc. Et Judy Wilson-Raybould avait dit, ben, au moment de nommer la juge Sheila Martins, c'était pas mon choix, moi, ministre de la Justice de Justin Trudeau.
Ah oui.
C'était pas non plus le choix du comité de sélection indépendant administratif qui faisait une présélection. Et la ministre et le comité recommandaient Glenn Joyal, juge en chef de la cour d'appel de du Manitoba. Et Justin Trudeau l'avait écarté parce qu'il l'avait jugé justement trop conservateur, trop...
trop sensible à la souveraineté parlementaire.
Exactement, il avait donné une conférence qui avait le mot « souveraineté parlementaire » dans le titre. Et M. Trudeau avait renversé la recommandation de sa ministre du comité pour dire, ben moi, c'est Sheila Martins, ma championne. Puis aujourd'hui, ben d'une certaine façon, on voit qu'il est un peu récompensé parce que cette vision assez, ce vocabulaire assez trudeauiste, ben il se reproduit dans la jurisprudence. Certains s'en réjouiront, certains vont le déplorer. Puis sinon, ben je veux pas te parler du fond, là, mais en une minute, si on veut inclure tout le monde, là, et si on veut respecter le droit de chacun de vivre conformément à son identité de genre, là, dans ce dossier-là, là, on avait affaire à une femme. Alors peut-être qu'on pouvait l'appeler femme, puisque c'est comme ça qu'elle s'identifie.
Elle s'identifie comme ça, bon.
Et dans d'autres dossiers, ben on s'adapte. Puis on vit dans une société où, Dieu merci, il n'est pas nécessaire de passer au bistouri puis de subir une lourde chirurgie génitale pour être un homme trans. Mais moi, mon hypothèse, c'est que oui, l'homme trans peut être cette personne ayant un vagin dont nous parle la juge Sheila Martins, mais je pense que la grande majorité des hommes trans veulent être respectés dans cette identité qui est la leur. Donc, ils veulent se faire appeler homme. Et si un jour on avait un cas comme celui-là avec un homme trans qui aurait été victime d'une agression sexuelle, je suis pas sûr que ça serait la meilleure façon de respecter son identité de genre que de constamment rappeler que c'est une personne avec un vagin. Il me semble que si on veut prendre les gens comme ils sont, les inclure, puis les respecter leur choix, pas sûr que c'est l'expression la plus habile pour un homme trans de l'appeler, de rappeler sans cesse que c'est une personne, dans certains cas du moins, ayant un vagin. Mais je m'arrête ici parce que je veux pas outrepasser les travaux délicats que l'on mène sur la question, mais je trouvais quand même qu'il y a beaucoup plus de positionnement là-dedans sur le spectre gauche-droite qui anime nos tensions et notre polarisation qu'une véritable prise en compte là, du sort des personnes.
Très intéressant, oui. Merci, merci, cher sage. Je me reprends. Merci, cher sage. Donc, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci et à la semaine prochaine.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.